comment ça se passe au niveau de la synthèse?
C'est moi qui vous répondrai une première idée et vous compléterez au fur et à mesure.
Donc on va faire du ping-pong là maintenant, donc c'est plus du tour de table. Donc ceux qui veulent parler, ils lèvent la main et puis je note les noms et on essaie de faire un tour.
Je vais faire de manière très... Oui, pardon.
Est-ce que je peux poser une question? Je suis partie de la commission mémoire, donc je filme de temps en temps des choses. Est-ce que c'est possible de vous filmer plus de 3 minutes?
Oui.
Parce qu'il y a... C'est bon. On peut juste faire un plan.
Bon. Donc, David, pour un essai de première synthèse. Ce qui a été partagé dans cet atelier, sous la première session, c'est que tant la bataille politique que médiatique a été perdue, pour les personnes LGBTI et que les principales personnes au courant en faire les frais sont les transidentitaires qui ont été complètement mis de côté et les personnes lesbiennes. Il y a eu un éparpillement des forces et une crise dans la représentation, personne n'étant assez légitime aux yeux de l'ensemble pour pouvoir parler face aux politiques qui ne sont pas qualifiés. Et ce qu'il faudrait, c'est un mouvement tendant vers une fédération qui soit représentative de tous et toutes et que nous ayons une communication adéquate grâce à des porte-paroles experts ou dont les réflexions et le discours soient nourris par des spécialistes de chacune de nos communautés. Donc ça, c'est ce qui est ressorti de façon assez flagrante pour moi pendant cet atelier. Donc ce sera important d'avoir effectivement un plaidoyer commun d'une plateforme de revendication. Et on a beaucoup insisté sur l'inclusion, c'est un mot qui est revenu dans le débat, et sur les définitions, dont l'enjeu étant de poser les mots, et de gagner cette bataille médiatique. Donc on est dans une deuxième séquence, on se projette dans cette deuxième séquence avec la volonté d'unir nos forces tout en prenant bien connaissance des spécificités de chacun, mais dans le but effectivement de fédérer et de porter ensemble ce mouvement. C'est un essai. Je vous écoute pour la suite, pour ce que vous voulez mettre.
Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter?
Oui. Jeanne, trans3.0, gyrophare. Oui, je voulais apporter des précisions par rapport au mouvement trans. En fait, il y a des grosses tensions. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un seul profil de personnes trans. Parce que fréquemment, moi, je suis obligé d'intervenir sur des personnes qui disent « Ah, mais on n'a rien à faire avec LGB, nous, on est des T, on est des vraies filles, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas une question d'orientation sexuelle. » Donc moi, j'essaie de leur parler de la solidarité qu'on doit avoir entre nous, et que c'est pas parce qu'elles vont être deux, trois à revendiquer cette séparation. Parce que la séparation, j'ai vu récemment, elle vient aussi d'un mouvement gay d'extrême droite, qui veut rejeter l'été. Donc c'est toujours pareil. Il faut, je pense que c'est mieux d'être solidaire pour défendre, parce que les personnes trans, ça ne représente pas grand-chose. Hein, déjà au point de vue nombre et au point de vue militant, c'est encore plus faible. Donc on a intérêt à être solidaire. Oui, je disais par rapport aux personnes trans, une personne trans, c'est uniquement quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec le sexe assigné à la naissance. Donc elle existe, au niveau de son sexe psychologique, c'est dans son ressenti, elle n'a pas un ressenti qui correspond. Donc ça lui fait un conflit en elle-même. Et après, donc soit elle arrive à vivre cette ambiguïté et qu'elle arrive à gérer, ou bien elle peut également aussi faire appel à des traitements médicaux, donc des hormones, de la chirurgie esthétique ou de la chirurgie de réassignation mammoplastie, chirurgie de la pomme d'Adam. Enfin, mais ce n'est pas obligatoire, parce qu'on a tendance à aussi à dire que les vraies trans sont celles qui font une réassignation sexuelle. Et ce n'est pas vrai. L'important, c'est de vivre son genre. Si on vit son genre, et après, les opérations, c'est pas annexe, mais parce que c'est un choix qui est difficile aussi. Mais je pense que le fait de vivre son genre et d'être respecté comme tel, c'est la chose la plus importante par rapport aux personnes trans.
Pardon. Vincent, Victoria, Because. Oui, je trouvais le démarrage assez un peu raide. J'ai écrit, mais bon, si le mariage pour toutes et tous est une victoire non totalement aboutie, elle laisse un goût amer. Sur les autres aspects, on est en échec, etc. etc. Je ne sais pas si ça peut être... Ça me semble plus équilibré. L'autre aspect, il ne m'a pas semblé entendre l'idée de... Parce qu'il y a la nécessité de fédération, etc., ça a été dit, bien entendu, mais aussi de développer les transversalités. Voilà.
Ariane, je vais essayer de lire un peu ce qui est attendu de ces 2 heures. Et bon, après, c'est pareil, hein, c'est pas figé, du coup, mais c'est des idées qui ont été données par celles et ceux qui ont contribué. Donc, en gros, cette deuxième partie, ce serait pour échanger sur les solidarités, les valeurs, la mutualisation des idées, la mise en commun des projets, voilà, la communication interassociative. Et ensuite, essayer de voir le cahier des charges qu'on développera aussi cet après-midi. Ce qui a aussi été demandé, c'est qu'on continue à échanger sur qu'est-ce que chaque association, collectif qui est représenté fait, et échanger aussi des bonnes pratiques, c'est-à-dire que dans nos fonctionnements respectifs, qu'est-ce qui fonctionne. Parce que l'important aussi, c'est de se donner des outils qu'on puisse réutiliser dans nos régions. Et voilà, parce que peut y avoir des super trucs qui existent à Bayonne ou à Bordeaux, et du coup se donner une méthodologie et essayer d'exposer un peu ce qui fonctionne, même de manière assez brève, si vous êtes d'accord avec ça, c'est de continuer à s'échanger à la fois des trucs personnels et de qu'est-ce qui fonctionne dans nos collectifs. Parce qu'on voit bien qu'il y a des... qu'il y a des objectifs différents suivant les différentes associations. Donc voilà. Si par exemple, Richard, tu veux développer un peu sur...
Richard, le collectif Gay and Grey. Ben, c'est vrai que l'idée nous est venue quand même de travailler en interassociatif dès le départ. Et on est actuellement une douzaine d'associations à se réunir une fois par mois pour définir des priorités. Est-ce que la priorité... Physiquement, oui, on se réunit. En fait, il y a le CRIPS qui nous offre ses locaux. Facile. Et on organise aussi une réunion au centre rue Beaubourg, une fois par mois, avec les participants de toutes les associations. Donc il y a peu de monde pour l'instant, il y a une dizaine de personnes gravitant autour du centre. Sinon, au niveau donc effectivement, des salariés associatifs ou bénévoles ou volontaires associatifs, on se retrouve à une douzaine d'associations.
Est-ce que tu pourrais préciser le CRIPS, ça veut dire quoi ?
Le CRIPS, c'est le centre de prévention
santé régionale.
Oui. Donc, principalement, on fait de la prévention en milieu scolaire. Donc c'est vrai qu'on a d'abord recensé un peu les outils que chacun avait, alors ça allait pour aide, par exemple, de son travail il y a 2-3 ans sur un colloque sur le vieillissement LGBT. Il n'y avait pas I dans le titre de leur colloque. L'autre cercle qui a fait un travail aussi d'enquête sur le vieillissement et quelles sont par exemple vos priorités, quelles sont vos angoisses par rapport au vieillissement. Bon, évidemment la solitude à 90%, puis d'autres, je pourrais décliner à un autre moment. Les lesbiennes, effectivement, ont fait état de leur de la construction des Baba Yaga. Puis voilà. Et maintenant, on en a une autre phase où on va interpeller effectivement les pouvoirs publics, par exemple, sur l'éventualité expérimentale de créer un lieu de vie, comme les PUV, petites unités de vie, qui représentent dans des... Et la ville de Paris avait décidé d'en faire une par arrondissement. Donc nous, on va un peu développer autour du sens de Paris la création d'une structure. Là, il faut que ça soit défendu effectivement par l'inter-LGBT, dans ses rencontres avec la ville. Enfin voilà, c'est ce qu'on a mis en place, c'est donc la constitution d'un groupe juridique via le Réval.
Le Ravad,
plus le groupe juridique, enfin du centre, etc., pour constituer donc des fiches techniques aussi, pour que tous les gens qui visent puissent se pencher et réfléchir sur comment organiser l'avenir. On a mis en place aussi peut-être un début de bourse d'échange aussi sur des lieux de résidence, des lieux de vacances. On a mis donc en place une newsletter qui est en bas, hein, n'hésitez pas à en prendre. On est au deuxième numéro sur quelques infos. On a un blog, donc le blog Gay & Grey, qui est consulté. Là, je crois qu'il y avait 1800 consultations le mois dernier. Donc ça commence un petit peu à s'essaimer. Donc c'est vrai qu'on doit développer tous un travail interassociatif sur ce sujet, même s'il semble mineur actuellement, et qu'effectivement des lois, là, c'est pas du tout une revendication législative, même si on sait qu'en tant que réformateur social, on peut avoir un impact, on l'a vu à l'époque du sida ou du mariage. Voilà, donc pour l'instant, on a décidé d'avoir vraiment un travail entre nous avant d'interpeller les pouvoirs publics, sauf sur cette petite expérience d'unité de vie.
D'accord. Ok, on classe réfléchir. Quelqu'un a envie de rebondir? Ouais. Après, il faut que ceux qui parlent trop parlent un petit peu.
Bien sûr. Voilà. Donc, Vincent, alors, plusieurs éléments. Le premier, c'est sur les revendications. Je veux dire, au niveau B, on n'a pas 36 revendications, on en a une et une seule. Qu'en tant qu'orientation sexuelle, la bisexualité est droit de cité, parce qu'elle l'a déjà dans la résolution 1728 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne l'ait pas. Tout à l'heure, on parlait du groupe Najat Vallaud-Belkacem, de la commission de 2012. On lui avait dit, et ce n'est pas dans le rapport. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Mais, autre aspect, les autres revendications, elles ne nous sont pas spécifiques. Mais par exemple, on n'a pas repris l'un des trucs de oui, c'est-à-dire la question de la filiation et de la parentalité. Nous, on est vachement partie prenante de cette discussion-là, de l'avancée à ce niveau-là. Donc ça alimente des solidarités. Ça alimente des solidarités, c'est-à-dire que, à l'inverse, on vient nous dire, en disant, dites donc, si c'est pas vous qui êtes au conseil d'administration du centre LGBT, qui va porter la parole de Bill ? Oui, d'accord, donc on met notre candidature, etc. La SOS homophobie, bon, qui n'est pas parmi les participants là, de ces états généraux, qui vient nous dire, mais dites donc, il faudrait qu'on fasse une enquête sur la bisexualité. Il y a les brochures qui sont sur la table en bas. Ah ben oui, voilà, c'est aussi comme ça que c'est. On n'est pas en chasse gardée, mais on est en situation d'interaction. Autour des valeurs, bon ça, voilà, je ne développerai pas plus. Une dernière chose... Dans le canevas, là, on parle de postes de salariés pour coordonner les associations et les projets, etc. C'est peut-être indispensable au cas par cas. Mais ce que je vois, moi, y compris en termes interassociatifs, vie, échange entre les associations, c'est qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place sans que ce soit nécessairement via des postes salariés. Et j'ai les deux exemples de l'inter-LGBT qui développe cet aspect-là, et pas seulement l'aspect soit institutionnel, soit marche des fiertés. Et l'autre exemple, c'est justement au niveau du centre LGBT, où tout l'aspect du fait qu'on soit dans une maison commune et pas simplement dans un lieu d'association, un lieu siège d'association, ou un lieu qui prête des salles, hein, pas simplement un utilisateur.
Richard Gengrill, effectivement, on a mis en place avec le centre et là les salariés du SIDAction et du centre, c'est-à-dire Sandrine Fournier, Irène Exiga, un questionnaire. Elles ont décidé de créer un questionnaire spécifique autour de la question de du vieillissement dans leurs adhérents, pour avoir comme ça un témoignage le mois prochain sur comment vous concevez votre avenir, quels outils vous avez. Donc ça va être diffusé à grande échelle très, très rapidement. Voilà donc la concertation entre trois structures, le collectif et deux associations via leurs salariés, mais sur d'autres initiatives, ce sont des bénévoles.
Tu as parlé de quelles associations, il y a le centre
et le SIDAction.
Alors, pour dire un peu comment... Ariane, ouais. Ce qui a fonctionné un peu dans le collectif Oui, par exemple, le premier truc que moi j'ai trouvé super, c'est le fait d'occuper les réseaux sociaux, de faire un site internet, parce que c'est un moyen d'être visible. Alors, c'est pas toujours facile. Nous, on avait des web designers et tout ça dans notre collectif, mais je trouve que c'est important d'essayer de trouver ça, de trouver ces compétences-là pour être visible. L'autre chose qui fonctionnait, c'était de faire plein de petites actions aussi pour occuper l'espace public. Donc des trucs plutôt drôles et qui du coup étaient assez efficaces. Voilà donc pour ce qui fonctionnait dans Oui. Bon, c'est pas exhaustif, hein, parce que je suis fatiguée, mais tu pourras compléter. Oui, je veux bien.
Marine, il y avait une vraie réflexion. En fait, on avait des journalistes dans le collectif, ce qui est assez intéressant parce que du coup, on se met à la place des journalistes et on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut leur fournir pour qu'ils nous reprennent, en fait. Et donc, dans toute la démarche de construction des communiqués de presse, des visuels, et même dans les manifs, il y avait cette réflexion-là. Par exemple, on va vous donner un exemple de la Gay Pride il y a 2 ans. La marche des fiertés. Il y a 2-3 ans, je ne sais plus. On n'était pas extrêmement nombreuses et on avait fait des panneaux A1 avec des portraits de François Hollande ou Manuel Valls en disant lesbophobe, PMA, trahison socialiste. Et donc un A1, je vous jure que c'est assez grand et c'est assez lourd par ailleurs. Mais en fait, on était sur toutes les photos alors qu'on était 4. Donc il faut simplement réfléchir de manière extrêmement concrète à comment est-ce que visuellement on peut faire. De la même façon, encore sur tous les articles de la PMA que vous verrez dans la presse nationale, c'est que des panneaux oui. Encore aujourd'hui, ils vont sur la base AFP, ils tapent PMA, et vous avez tous les visuels, oui, vous avez tous dû les voir. Donc ça marche. Donc s'il y a une réflexion comme ça, ça peut fonctionner, et c'est assez important, et c'est vrai que ça fait partie des bonnes pratiques qu'on a pu avoir et qu'on aimerait reproduire, même si effectivement, comme disait Ariane, il faut réinventer toujours. Et voilà, donc c'est pour compléter.
Alors Fred de Hedde, moi je rebondis un petit peu sur ces actions de visibilité. Chez Hedde, depuis 2 ans à Paris, on fait des villages associatifs le jour de la journée mondiale contre l'homophobie, ouais, 17 mai. Donc il y a 2 ans, nous on l'a fait à Pigalle, parce que c'est notre territoire en fait. Hedde est divisé en 4 territoires en Ile-de-France. Et l'an passé, on l'a fait, enfin là au mois de mai, pardon, on l'a fait à Châteaurouge. Alors pourquoi ces lieux? Parce que c'est des lieux.
C'était à Beaubourg aussi, avec Paris 12.
Ouais, c'est un autre territoire, mais oui, ils étaient à Beaubourg aussi. Mais nous, on a trouvé que c'était intéressant d'aller à Pigalle et Châteaurouge, parce que c'est des lieux aussi qui brassent des populations différentes du Marais. pour moi, le Marais, c'est un peu acquis, c'est un peu facile. Bon, il faut aussi qu'il y ait des villages associatifs là-bas, mais toucher aussi des populations qu'on n'a pas l'habitude de toucher et aller aussi vers les LGBT migrants ou qui ne sont pas forcément blancs et qui ne se traînent pas forcément dans le Marais. Voilà. Donc c'était des villages associatifs qui étaient donc proposés à toutes les associations LGBT. On a eu pas mal de stands. Je crois qu'il y avait Fier, il y avait Because, il y avait je sais pas s'il y avait oui je me rappelle. Ouais, c'est ça. Donc chacun avait son petit stand, c'était vachement sympa parce qu'il y avait beaucoup de passages, donc les gens passaient, ils s'arrêtaient, ils se documentaient. Et voilà, c'est ce genre d'action qui fédère un peu toutes les associations. On va essayer d'en faire plus, et je pense que voilà, ça permet aussi de faire rencontrer les assos et de créer des liens.
Voilà. Jeanne, oui, peut-être que ce serait intéressant au bout de ces deux jours de refaire un récapitulatif de toutes les journées un peu militantes, que en fait qu'on ne soit pas toujours pris au dépourvu au dernier moment, parce que l'année est structurée, il y a toujours des choses à faire. Donc que ce soit, par exemple, on peut commencer au mois de mars avec la Journée internationale du droit des femmes. Après, on pourrait enchaîner sur le printemps des assos. Après, Idaot, au mois de mai, les marches des fiertés. En décembre, il y a Existence.
Décembre.
Ah non, en octobre, il y a Existence. Parce que je réfléchissais en même temps. En novembre, il y a le Tidor. On n'en a pas parlé, mais le 20 novembre, c'est la journée anniversaire des personnes trans. Et en 2015, il y a déjà eu 271 personnes qui ont été assassinées à travers le monde. Donc on essaye ce jour-là de marquer l'événement, pour pas qu'on oublie que à travers le monde il y a encore des personnes qui sont assassinées, et même dans les pays qu'on pense évoluer, par exemple comme l'Argentine qui a voté une loi sur l'état civil très très ouverte, puisqu'on change l'état civil uniquement sur déclaration, et bien la militante trans elle a été assassinée il y a 15 jours, donc c'est hyper violent quoi. Donc il y a la journée de, j'ai oublié, la journée de la visibilité trans le 31 mars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les journées SIDA. Enfin,
la bisexualité en septembre aussi.
Oui, la bisexualité. La visibilité. Oui, c'est quelle date?
La journée internationale de la bisexualité, le 23 septembre.
23 septembre.
Le 25 novembre aussi.
Lutte, oui, les violences faites aux femmes. Oui.
La journée de l'intersexuation.
Ah oui, c'était il y a quelques jours. Donc je ne sais pas si on pourrait faire un récapitulatif comme ça. On pourrait se positionner et peut-être donner des priorités ou pas selon nos capacités d'action. Et puis après, bon, comme disait Marine, c'est vrai que quand on est à une certaine qualification dans les possibilités de médiatisation, c'est vrai des fois que ça porte plus, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, des fois si on cible bien, on peut bien communiquer.
Philippe, tu veux parler? Merci.
Philippe des Basco. Voilà, nous, le travail qu'on a pu faire, c'est un travail de maillage et politique et social, politique au sens large du terme, hein, pas forcément lié au parti directement, mais aux politiques des gens de la ville, des personnes de la ville, et au travail avec les groupes sociaux qui existaient, qui ont pu nous accompagner dans des démarches très ponctuelles. Je vais parler par exemple de notre association, nous sommes les seuls hein, sur Bayonne, donc l'inter-associatif, c'est nous, et uniquement nous. Donc, aller manifester pour notre petit des 3PD et de lesbiennes, et même pas encore de trans qui sont chez nous venus.
Il y en a pour...
Oui, mais qui ne sont pas encore venus. Hein. Notre mot d'ordre qu'on pourrait avoir ne serait que... Donc le travail qu'on a pu faire, c'est à un moment donné, bon, c'est arrivé contre une disposition qu'avait évoquée l'évêque de Bayonne, d'accueillir des personnes de l'Opus Dei sur tout ce qui était, hein, ce qui nous concerne. On a décidé de répondre. Et répondre tout seul, on s'est dit non, répondre tout seul, on va nous mettre dans un coin et on n'en parlera plus. avec le planning familial qui se sentait aussi en devoir de réponse, on a décidé de créer un petit collectif. Le collectif, en faisant venir les partis politiques, on a fait cette démarche-là d'aller chercher les gens. Alors c'est très volontariste. Partis politiques, syndicats, autres associations, même des chrétiens du 64 qui s'opposaient à l'évêque sont venus avec nous. Collectif de 36 signataires. Ce jour-là, manifestation contre l'évêque de Bayonne, on était plus de 1000. À Biarritz, hein, attention, il faut relativiser. Et là, ce collectif persiste. On va aider le planning familial pour aller répondre contre l'Espagne, le consulat espagnol, contre ce qui s'était passé en Espagne. On était là. Voilà, on n'est plus 2 ou 3, on est 50, 60, et là, on a cette force-là. Donc, travailler avec les autres nous a inversement énormément aidés. On nous connaît, on nous reconnaît, on fait partie de la ville de Bayonne, en tant que Basco. Et là, le travail qu'on veut faire par rapport, ce que je disais tout à l'heure, voilà, par rapport aux autres institutions, entre autres l'Association des Parisiens de France, pourquoi on est allé vers cette transversalité? Parce qu'au sein de nos adhérents, nous avons réussi à être à peu près 200 adhérents actuellement, certains portent un handicap. Certains portent un handicap. Et on s'est dit, bon, est-ce que pourrait répondre à leur double discrimination et travailler avec l'Association de Paris de France, qui est en train de se faire, avec tous les autres organismes qui sont contre les discriminations, où on essaie de travailler de plus en plus ensemble. Ce que fait l'inter-LGBT, qui a d'autres associations non forcément uniquement LGBT. Donc, ce qui existe à Paris, nous, on essaie de le faire sur Bayonne, et on s'aperçoit que, ben, qu'on est moins isolé, qu'on est plus fort. Plus fort. Alors, après, notre démarche, c'est d'aller un petit peu vers les politiques, et on y va. Alors, nous, c'est notre démarche locale, par petits pas. On est peut-être moins en confrontation directe, parce qu'on pourrait très vite nous écraser plus facilement. Par contre, on a réussi à avoir, à un moment donné, ben, une écoute privilégiée parce qu'on n'était pas tout seul. Et je vais même plus loin dans le cadre de la convivialité. On s'est immiscé un petit peu dans le cadre de Bayonne et de ses peñas, donc des associations de fêtes de Bayonne, hein, puisqu'on a un petit bar associatif. On a dit, on va rentrer là-dedans. On fait partie des peñas de Bayonne, où vous avez dans ces peñas les rugbymen, vous avez les tauromachies, machin, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'on adhère, mais qu'on fait partie de ce groupe qui font les fêtes de Bayonne. Et donc, que les gens sont venus vers nous, qu'on est accepté. Et ça, c'est un travail ben, qu'on a fait petit à petit, très volontariste. Il faut aller chercher. Mais maintenant, on est reconnu. Donc, à partir de là, je pense qu'aller vers les autres, en transversalité, et pas uniquement se renfermer sur nous, notre propre problème, il ne faut pas le négliger. On a nos soucis à régler. On a des choses à faire avancer. Mais si on est accompagné avec les autres et qu'ils nous comprennent, ça sera d'autant plus facile.
Avec plaisir. Donc Christophe, pour le refuge, voilà, bah c'est à peu près ce qui s'est fait ici. Alors, il y a quelque chose de spécifique au refuge, c'est quand même un segment particulier, on s'adresse, voilà.
Où ?
On est obligé de travailler avec d'autres structures, au niveau local, évidemment, pour pouvoir tout simplement envoyer nos jeunes à leur rencontre. Donc ça se fait naturellement avec, bah, avec la Croix-Rouge, avec en général ça commence avec la Croix-Rouge et le planning familial, et puis après on développe suivant nos besoins. Ça va assez vite, donc on est en capacité du coup d'intervenir avec nos partenaires sur les addictions, sur la prostitution, sur pas mal de choses. Voilà, des choses plus joyeuses aussi. Hein. Bon. Donc on avait cette volonté de le faire aussi avec les associations LGBT. Le climat n'était pas très propice il y a dedans quand l'antenne s'est créée, c'est allé beaucoup mieux. Et la volonté vraiment de converger sur certains points et de voir en quoi on était complémentaires. Voilà. Et le refuge et SOS par exemple, c'est pas toujours SOS homophobie, c'est pas toujours si simple. Donc on a dit allez, on y va, on est capable de travailler ensemble, donc c'est parti. Et le groupe qui s'est occupé de la logistique ici, donc le pôle LGBT Vaucluse, c'est beaucoup le refuge et SOS voilà, qui sont partis main dans la main. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres associations évidemment. Mais il y avait un enjeu là. Donc je suis devenu adhérent à SOS. Et les personnes de SOS sont devenues adhérentes refuge. Bon voilà. C'est un échange de bons procédés, mais ça mettait le pied à l'étrier quand même. Et sur la région, on essaie vraiment d'être complémentaires aussi. Ça pourrait se faire à des niveaux plus élevés. Voilà. C'est-à-dire que on peut émettre un certain nombre d'idées, par exemple, que les appels reçus par le refuge puissent être comptabilisés par SOS et qu'à l'inverse, SOS dans ses IMS puisse parler du refuge. Il y a des choses assez logiques qui ne sont pas très très compliquées. Bon, j'ai parlé que de deux associations, mais qui sont un peu symptomatiques quand même de ce qui se passe. Voilà. Et évidemment, c'est travailler aussi avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut évidemment taper du poing sur la table, bien comme il faut, et partir presque en claquant la porte. Mais on a besoin d'eux terriblement, localement. Donc c'est avec le sourire, et puis on revient, et puis on essaie de, voilà, de tourner comme ça. Mais on a évidemment énormément besoin d'eux, c'est-à-dire que une subvention qui va baisser un petit peu ou quelque chose qui ne va pas rentrer d'une année sur l'autre, ça veut dire ne pas être en capacité de continuer à accepter un jeune qui a pourtant signé son contrat d'hébergement. Donc c'est compliqué. Voilà. Mais vous avez entendu des choses, hein, y a des choses, des messages subliminaux qui sont passés hier de la part de Madame le maire pour le centre LGBT, évidemment, dont on rêve, mais qui pour l'instant nous était proposé contre loyer. Et on a dit, ben bien sûr, mais alors il faut augmenter les subventions que vous nous allouez, parce que l'argent ne le crée pas comme ça. Et ou alors ça devient vraiment symbolique. Donc je crois que c'est vers ça que l'on va. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà, et puis on a besoin structurellement aussi de la mairie, de la préfecture, du conseil départemental
et de la région et de l'ARS. Et voilà. Donc on a besoin de travailler avec nombre de partenaires institutionnels. Sur Avignon, on travaille beaucoup avec le SIAO.
Avec le
SIAO.
C'est
le 115.
Ah d'accord.
Notre travailleur social et la directrice adjointe. Voilà, donc, c'est bien.
Alors de ce côté, on vous a pas trop entendu.
D'accord.
Ouais. Quelqu'un a envie de parler?
Oui, mais c'est juste pour expliquer rapidement.
Ah, faut dire son prénom et ton association, qui tu reconnais.
D'accord. Joachim Bourcardez, donc du NPA. Juste Joachim du NPA. Bon, en fait, c'est un peu dur de prendre la parole dans cette discussion parce qu'on est beaucoup sur les pratiques associatives et je trouve ça vraiment très intéressant. Mais moi, je viens de la commission LGBT, justement, du NPA, donc du nouveau parti anticapitaliste. Et le rôle est différent, en fait, d'une commission LGBT dans un parti. Dans la plupart des partis progressistes, il y en a. Nous, en fait... Ça part d'un constat, moi je suis membre du NPA depuis 2009, depuis sa création, et on s'est rendu compte que en fait, si on ne les prend pas nous-mêmes en charge, les questions LGBT, elles ne sont pas prises en charge automatiquement. Donc il faut qu'on se rassemble dans des commissions et qu'on porte nos positions par rapport à ça. Donc j'aurai l'occasion de prendre la parole dans ces états généraux, mais peut-être pas maintenant, alors que c'est une discussion sur les pratiques.
Ouais. T'es à Paris du coup ?
Non, je suis à Marseille.
Jérôme, Arc-en-Ciel Toulouse. Alors moi, je suis tout nouveau à Arc-en-Ciel, dont parler, ça fait un mois que je fais partie du bureau. Après, j'ai du mal à parler un peu de... Il y a beaucoup de choses qui se font à Toulouse. Et il y a beaucoup de transversalité aussi qui se fait. Après, un accompagnement de la mairie, malgré qu'elle ait changé, qu'elle est passée à droite. On a eu quand même un accompagnement et pas de baisse de budget de fonctionnement. Après, avec une demande aussi de cette même mairie d'aller un peu vers les quartiers, pour un peu un rôle de pédagogique pour vers le Mirail, vers des donc vers les banlieues, puisque on était notamment le festival des fiertés resté dans notre milieu, dans des lieux LGBT, dans des bars, dans des... Et cette année, c'est une volonté d'ouvrir vraiment vers d'autres univers, vers d'autres publics et aussi vers d'autres départements limitrophes, c'est-à-dire faire un peu comme le festival des images homo a pu faire sur Toulouse, aller vers d'autres départements et donner aussi pendant la période de la marche la place au département et moins plus sortir des chars de commerce ou et plus donner la place donc aux associations départementales adhérentes d'AEC et ce côté dont on parlait tout à l'heure de moins la plume dans les fesses quoi, en gros, mais plus ce côté-là de militant et de montrer qu'on est là et qu'on a des choses à dire et aussi quand on en parlait ensemble tout à l'heure de ce côté aussi de la marche des fiertés, on s'est aperçu aussi que à Toulouse la marche des fiertés était très représentative de la jeunesse et qu'il y avait une tranche de population des 50 et 60 qui en fait n'y venait plus. Et donc c'est aussi remobiliser ce public-là qui sans lui on ne serait pas là aussi aujourd'hui. Et puis voilà, après il y a d'autres choses qui vont me revenir, parce que je suis en train de chercher aussi.
Fred Dehaide, alors moi je voudrais juste rebondir sur la marche des fiertés, parce que ça fait deux fois que j'entends des petits trucs qui me dérangent en fait. Les plumes dans le cul, pour moi ça fait partie... Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. On est là pour discuter, il n'y a pas de souci. Pour moi les plumes dans le cul, ça fait partie de la marche des fiertés, il en faut, et il faut pas le cacher, parce que les premiers qui ont marché dans la rue, c'était les folles et les gouines, c'était pas les gays. Parce que les hommes, ils sont assez lâches en général. Donc c'était les gouines et c'était les folles. Voilà.
Mais pour la diversité.
Tout à fait. Donc quand on regarde les images d'archives des premières marches dans les années 70, où il y avait quelques centaines de courageux qui se faisaient insulter, on voyait des gouines et on voyait des folles. Voilà. Donc voilà, tout à fait.
Donc, les personnes trans aussi.
Les premiers à Stonewall, ouais. Ouais. Donc pour moi, il ne faut pas nier cette réalité, parce qu'on est dans une espèce de normalisation aussi de l'homosexualité, une vision très propre, très voilà, pour faire plaisir à la grand-mère, je vais marier, je vais adopter des enfants. Il faut aussi garder cette réalité qu'il y a des gens qui ont envie de rester marginaux, il y a des gens qui ont envie de devenir avec une plume dans le cul, ça fait partie de notre communauté, il faut l'accepter et il ne faut pas le rejeter. Pour moi, c'est vachement important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Arnaud, je vais revenir sur la marche des fiertés. C'est vrai que nous, à Arras, c'était la deuxième cette année. Donc nous avons 1000 personnes. C'est vrai que nous ne souhaitons pas rester seulement une marche des fiertés. L'année prochaine, nous souhaitons l'organiser avec toutes les associations, pas seulement homo, mais toutes les associations citoyennes. Comme par exemple le Point d'information jeunesse, Amnesty International. On ne veut pas tomber, entre guillemets, dans le cliché. J'ai envie des plumes dans le cul, la marche des fiertés. On veut vraiment ouvrir la marche à tout le monde. Parce qu'on n'est pas là pour seulement défendre le mouvement gay, lesbien et autres. Donc on est là pour défendre en fait toutes les valeurs de la société. Et c'est vrai que tout à l'heure on parlait de travailler ensemble. C'est que nous on est, bon c'est une association qui a que 2 ans. Donc on essaie petit à petit de monter notre partenariat. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On sait pas toujours vers quelle porte aller. Surtout on devrait, bon dans le Pas-de-Calais, c'est vrai qu'il y a surtout le Nord avec les associations lilloises. Mais nous, on se retrouve un petit peu à part. Et donc, on essaye de faire ce partenariat. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et de temps en temps, on va plus vers d'autres associations où on est mieux, pas considéré, mais on a une meilleure écoute. Et c'est vrai, au niveau financement, c'est pareil. On a beaucoup de mal à en avoir. Là, on va enfin avoir une subvention de la municipalité. Mais c'est pareil, après avoir beaucoup bataillé, après avoir des dossiers qui se sont perdus pendant 2 ans. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre en place différentes actions.
Donc Amandine, je rebondis déjà sur ce qu'a dit Fred, effectivement, parce que la marche des fiertés, ne serait-ce que être présente et présent dans la rue, c'est quelque chose de politique en fait. Et être là aussi dans toute notre diversité. Parce que effectivement, même si le gros souci des médias ont tendance à prendre, on va dire, une particularité, notamment les personnes qui vont justement être dans le côté de, on va dire, qui vont souhaiter s'éloigner de l'homonormativité. J'aime pas ce mot, du coup j'ai du mal à le dire. et donc va prendre justement cette particularité pour un tout, mais c'est pas pour autant qu'il faut justement être dans la méfiance et dans le rejet en fait de cette chose-là. Et quand on parle de dépolitisation, c'est vrai que c'est politique, en fait, d'être déjà dans la rue et d'être ce qu'on est et de l'affirmer. Donc ça, c'est une chose. Après, pour parler, du coup, pour revenir à la question de ce qu'on fait, des pratiques, etc., moi, je voulais reparler de la, en fait, de la restructuration de l'inter-LGBT, parce que c'est vrai qu'on a eu, en 2012, effectivement, enfin, il y a eu vraiment une mutation de l'inter, notamment avec Nicolas Gouguin, qui a beaucoup été... qui a fait beaucoup de lobbying, enfin l'inter en elle-même est devenue très médiatisée et est devenue ensuite la principale interlocutrice des politiques et des médias. Même si avant l'inter a toujours aussi fait un lobbying important, que ce soit pour le PAX ou autre, mais était beaucoup plus dans son côté voilà, organisatrice de la marche des fiertés. Donc en fait, après cette période, on a vu deux choses. D'une part, énormément d'associations aussi sont rentrées, ou d'autres personnes sont rentrées, pour envahir ce lieu de pouvoir. Et ça fait partie aussi de mon cas, parce que moi, je suis devenue aussi déléguée et porte-parole de l'inter, parce que j'en avais marre que ce soit toujours des hommes qui confisquent la parole. Enfin, qui confisquent. Je fais un côté un peu péjoratif des choses. Mais c'était mon souhait, en tant que lesbienne, d'investir l'inter-LGBT. Et donc, on a eu l'entrée de beaucoup de personnes. Et on a vraiment essayé de démultiplier nos forces et donc de restructurer cet inter-LGBT. C'est passé par la création de délégations thématiques qui développent en fait chacune des expertises sur ce sujet avec donc des délégués à leur tête à chaque fois. Donc j'en ai parlé en intro avec une délégation santé, une délégation famille, internationale, visibilité lesbienne, droit des trans, éducation. Et on est là pour à la fois en fait donc développer ces expertises-là, mais aussi en profiter pour développer des alliances aussi avec d'autres et travailler sur du coup ce côté intersectionnel. Si je prends par exemple une délégation que je connais bien puisque c'est la délégation visibilité lesbienne, nous ça fait depuis 2 ans où on est vraiment investi dans tous les combats féministes, où on va suivre par exemple les réunions, donc les deux réunions, puisque le mouvement féministe, vous le savez sans doute, est assez divisé, notamment par rapport à la question prostitution. Donc nous, au niveau de l'inter-LGBT, on n'a pas de position sur ces questions-là, puisque l'esprit de l'inter-associative, de l'inter-LGBT, c'est vraiment d'unir, en fait, enfin de concentrer notre énergie sur des sujets qui vont nous unir. Même si après, au sein des 60, des associations membres, il y a des positions différentes. Et après, effectivement, ensuite, d'elles-mêmes, elles prennent position, elles font leur propre combat. Mais par contre, on se concentre sur ce qui va nous unir. Il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que qui nous divisent, notamment au niveau de cette thématique LGBT. On prend part autant aux réunions du CNDF, donc le Collectif National Droits des Femmes, les mouvements féministes, dits institutionnels, c'est-à-dire les principales associations féministes sont réunies lors des réunions unitaires du CNDF. On retrouve aussi les syndicats et les commissions droits des femmes, féministes, des partis politiques. Par exemple, le NPA qui est là, Europe Écologie Verte, etc. etc. Et puis également, on est investi dans un collectif qui a été créé en 2012, qui est le collectif Mars pour toutes. Qui est plutôt en fait ce qui est intéressant ici, c'est que c'est moins un collectif de personnes morales, d'associations, que d'individus, mais qui sont vraiment très, actives, notamment sur les réseaux sociaux, et qui font maintenant des manifs aussi, qui rassemblent beaucoup, beaucoup de gens, et qui sont plus axés aussi sur la dimension d'inclusivité. Si le CNDF évolue aussi de plus en plus par rapport au lobbying qu'on peut faire aussi au sein de l'Inter et d'autres associations pour incorporer de plus en plus ces questions. Et effectivement, ça marche parce que on a pu voir que, par exemple, lors de l'anniversaire du 17 janvier, qui était les 40 ans de l'IVG, nous, en tant qu'Inter, on a participé aux réunions donc, organisée par la CNDF pour préparer cette mobilisation. Et c'était la première fois où justement on a vraiment incorporé la PMA. Et on ne pensait pas pouvoir, lorsqu'on a proposé, de faire un truc plus général, c'est-à-dire droit des femmes à disposer de leur corps. Et vraiment, c'était devenu, donc c'est bien devenu IVG et PMA. Et pareil aussi pour le texte qu'elles ont fait pour le. Enfin, qui a été fait proposé pour le 25 novembre, où on a fait des premiers amendements, pour la première fois en tout cas. On n'a pas pu signer le texte parce qu'ils prennent position sur la prostitution, mais ça ne nous dérange pas d'amender, puisque si elles acceptent, si les amendements sont acceptés, autant en proposer. Et donc pour la première fois, on a réussi voilà, à incorporer aussi vraiment toutes les femmes donc, lesbiennes, bisexuelles et trans. Donc c'est aussi une grande première dans un texte du CNDF, puisqu'il y a très peu quand même d'associations LGBT dedans. Et, un texte qui ressemblait, fait par et pour des féministes hétéros, est devenu beaucoup plus, est devenu vraiment large et inclusif. Donc c'est des choses qui marchent, et pour nous c'est très important, voilà, là je parle de la délégation visibilité lesbienne, mais les autres aussi délégations, je pense notamment à la délégation internationale, qui travaille notamment beaucoup avec Russie Liberté, qui est une association pour les droits des personnes, donc des Russes, et qui inclut évidemment les questions aussi LGBT, parce que vous savez aussi, les LGBT en Russie, c'est
compliqué.
Voilà, c'est très compliqué, c'est beaucoup de violence, de discrimination, et beaucoup de recul aussi sur leurs droits. Donc voilà, l'idée c'est de développer en fait toutes ces alliances avec les différents les différentes organisations, les différents mouvements en fait, pour créer cette convergence. L'autre chose, donc, au niveau des choses, des actions en cours, là on est plutôt par rapport donc, aux années passées dans le lobbying en fait. Malheureusement on est dans un autre stade parce que les combats de rue, dans les fights, mais les mobilisations, maintenant on voit que de toute façon un essoufflement du public. Et l'idée maintenant c'est vraiment de convaincre aussi les élus qui aussi manquent de pédagogie, parler de pédagogie. Donc là, la dernière grosse action qu'on a lancée, c'est justement un plan PMA, en fait, qui a été lancé donc, le 23 octobre. Donc ça, le plan PMA, en fait, c'est pour la première fois, on a commencé en fait une pétition d'élus qui appelle à légiférer pour la PMA. On l'a fait parce que, d'une part, c'est la dernière fenêtre de tir, en fait, pour cette question-là, parce qu'on est très bien conscientes et conscients que, on va dire en printemps 2016, on passera aux campagnes présidentielles. Ouais, on a déjà commencé, malheureusement, grâce à cause de ces événements-là. Et on a souhaité le faire en fait suite aux deux avis très positifs qui avaient été lancés début juillet par le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et le Défenseur des droits, qui se sont coordonnés pour donner un avis positif pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et c'était quand même une sorte de... c'était à nous, après, en tant que, inter-LGBT, mais aussi autres, enfin, en tant que militante et militant, de se saisir de cette opportunité-là pour justement passer à l'action. Et c'est grâce à des échanges qu'on a pu avoir, notamment avec l'ambassade des Pays-Bas, qui était venue à la Marche des Fiertés, et qui avait fait d'ailleurs, avant la Marche des Fiertés, un colloque sur les pratiques, justement, militantes LGBT, qui nous ont un peu soufflé cette pétition d'élus. Parce que justement, aux Pays-Bas, s'ils ont autant d'avancées, c'est parce qu'ils ils sont très activistes aussi. C'est pas en claquant des doigts qu'ils ont eu effectivement, avant nous, toutes ces évolutions. Et notamment, ils avaient fait aussi des choses qu'ils avaient mis en place, des pétitions d'élus. Donc là, on l'a lancé. Donc auparavant, on avait fait une phase qualitative. Avec déjà, pour qu'au lancement ça soit médiatisé, avec donc des élus renommés en fait. Donc grâce aux commissions politiques qui sont au sein de l'inter-LGBT, on a pu avoir, ils ont travaillé pour avoir justement des signatures telles que Duflo, Mélenchon et compagnie. Et là on passe à la phase maintenant quantitative. Et justement on va commencer donc à... notamment sur nos réseaux, à relayer à fond du coup cette pétition. Donc j'en profite pour faire un peu de promotion. De vos côtés, n'hésitez à relayer aussi auprès de vos élus justement, parce qu'on sait que globalement, ils sont prêts à signer. L'idée, c'est d'avoir le plus grand nombre de signatures possible pour une remise qui sera à la mi-janvier. Et avec après une partie lobbying où on va travailler avec des élus pour proposer un projet de loi. Et donc ça sera le dernier de toute façon, le dernier coup. Donc autant y aller à fond de toute façon. Il n'y a plus rien à perdre. Et l'autre actu qui est très aussi. Enfin, l'autre question qui est très. Notre enjeu qui est très médiatique en ce moment aussi et d'actualité politique, c'est le projet de loi pour le changement d'état civil. Donc là, du côté de Clémence Zamorat-Cruz, qui travaille beaucoup dessus avec d'autres associations trans, qui vont commencer à proposer aussi des modifications, enfin des recommandations par rapport au projet de loi actuel. Donc l'Inter aussi travaille énormément avec aussi l'existence. Et puis sur aussi bien plein d'autres questions de toutes ces délégations. Mais on pourrait en parler en fait des heures. Donc voilà, c'est un travail au long cours en fait, dans le lobbying et avec des forces, on voudrait faire plus, mais effectivement on est toutes et tous bénévoles. Et ça demande énormément de temps, quoi, le fait de s'occuper de sa thématique et de déborder, enfin faire ses alliances avec notamment. Ce qui est de la délégation, par exemple, visibilité lesbienne, avec tout ce tissu féministe très large, mais qui est le principal, les principales alliées, que ce soit des lesbiennes, mais pas que aussi, de tous les LGBT, puisqu'on subit les mêmes violences et discriminations par rapport justement à cette hiérarchisation masculin-féminin. Voilà.
Ouais. Marine, du coup, je ne sais pas si c'est dans la thématique, mais on parle de... lobbying et du coup je fais pas mal d'interrogations, je pense que c'est l'endroit pour en discuter. Il y a quelque chose qui semble émerger, et je l'ai vu parlant très clairement de la part de HES, qui est homosexualité et socialisme, qui est donc membre de l'inter-LGBT et de la commission politique, c'est que je pense qu'on va voir de manière assez récurrente un discours qui va faire du bilan de François Hollande sur nos questions quelque chose de très positif, une victoire, et de faire de François Hollande le héros des LGBT par rapport au mariage. On l'a déjà vu, les premiers sont arrivés la semaine dernière et on va le voir, parce que c'est un discours politique.
C'est de la com.
Ouais, non mais c'est voilà. Après la question c'est, déjà, moi je sais comment je vais réagir par rapport à ça, c'est-à-dire que je vais avoir une position qui va être de ne pas me laisser faire, et de ne pas me laisser... de ne pas laisser réécrire l'histoire, mais j'ai plus de doutes par rapport à l'inter-LGBT, de savoir comment est-ce que vous allez réagir, parce que quel est le rôle d'HES là-dedans, et comment est-ce qu'en interne vous pouvez gérer ça en fait. Parce que j'ai du mal à voir, c'est le cœur en fait de l'influence, pour moi il est là, et c'est de manière extrêmement concrète, et ça va se poser là, parce que tu parles de cet angle-là, PMA, et je trouve ça très bien que vous ayez fait ça, mais comment est-ce que ça peut coexister avec un agenda de campagne d'HES qui est au même endroit et qui est extrêmement dominant au sein de l'Inter en fait, et c'est un vrai questionnement. Voilà. Donc je pose ça là au milieu. Et,
C'est un gros pavé là.
Ouais, mais en même temps on parle de lobbying, donc je pense qu'on peut en parler quoi.
Non, il y avait d'abord...
Oui, Jeanne, oui, je voulais parler un peu de ce qu'on fait avec notre association en termes de pédagogie. Donc, souvent, on est sollicité par des étudiants qui font des mémoires et, sur la question trans. Donc on devait réaliser une charte parce que il ne parle pas toujours de façon bienveillante des personnes trans. Donc, pour l'instant, on est en train de travailler là-dessus avec Arnaud Alessandrin, qui est un sociologue, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui fait partie de notre association. Donc à chaque fois, souvent, quand il y a des événements comme ça, on essaie de faire une projection un film genre, je sais pas, Tomboy, ou je sais pas, L'ordre des mots, des choses comme ça. Et on essaye après d'entamer un dialogue avec le public pour parler du genre, tout ce qui est lié au questionnement des personnes trans. On avait aussi essayé l'année dernière, mais on a un petit peu échoué on avait repris la charte Transmedia Watch qui était faite en Angleterre et qui a été reprise en Belgique par Jean Pluriel et qui est destinée aux médias et à la façon dont ils parlent des personnes trans. Parce que souvent, on voit un titre du journal, Pamela née Gérard s'est fait prendre, je sais pas quoi, en train de tapiner, je sais pas, enfin, ils trouvent des titres plus sordides. Ils remettent la personne au masculin. Ils disent Gérard machin s'est fait assassiner là, alors que c'était une personne trans. Donc ils ne respectent pas l'identité. Donc nous, on a essayé de rencontrer des radios, des journaux, mais ça n'a pas beaucoup... Si j'ai réussi à avoir une interview avec 20 minutes, je crois, un truc comme ça. Mais bon, sur le reste, on a échoué. Donc je pense qu'il faut toujours continuer à travailler là-dessus, sur l'aspect média.
Et la JL, là.
Oui, une association de journalistes.
Oui, mais justement... Ouais. Je pense que ils préfèrent. Bon, nous, on a pas de. Justement, on a un peu limité notre action, puisque si cette association peut développer, reprendre cette revendication par rapport aux médias, c'est très bien.
Et je pense qu'ils seraient preneurs de synergie et
De oui, travailler ensemble. Ouais. Ouais.
Non, mais c'est bien. Bon, et sinon, on intervient aussi. On fait des interventions en milieu scolaire avec l'association Contact. Donc on travaille avec des lycéens en première terminale. Et c'est toujours très très intéressant de témoigner, de raconter les difficultés d'intégration LGBTI.
Voilà. Merci. Vincent ?
Vincent de Bicos Victoria. D'après, par rapport à ce que disait Marine, j'ai dit oui méfiance, oui mémoire, oui vigilance, trois fois oui. Mais d'abord, c'est plus la coordination politique. C'est pas comme ça les statuts, c'est la plénière politique. La deuxième chose, c'est que j'ai lu avec intérêt, je ne sais pas, OPS, hein, pas vraiment. J'ai lu avec intérêt le bilan à mi-mandat qu'HES avait été fait, qui était un bilan sans concession. Sans concession. Et donc, comme je recherche toujours la cohérence chez moi, je la demande aux autres. Donc je verrai bien, défiance, machin, etc. La troisième chose, c'est que je pense que justement, le bon moyen, parce que ça appuie là où ça fait mal, d'être dans la... Alors, j'aime pas le terme lobbying, mais bon, dans l'action pour couper court à tout ce qui est amnésie, c'est d'être sur la PMA et sur le changement d'état civil. La quatrième chose, c'est que il fut un temps où on avait à l'inter-LGBT, je ne l'ai pas connu, hein, donc je parle d'un temps, une association liée à l'UMP. Et je dis bien l'UMP. Galib. Elle n'est plus liée à l'UMP. Elle s'est désaffiliée du travail en commun avec l'UMP. Il est évident que la question politique ne sera pas absente du schéma général. Ça ne donne pas un blanc-seing à ce qui ne s'est pas passé sur l'actuel gouvernement. Mais vigilance, là aussi. Donc, dans les premières initiatrices et initiateurs de l'appel, il y a, un élu centriste et un élu modem, un élu modem. Donc, là non plus, je ne donne pas des médailles en chocolat, mais faut aussi se servir de ce type de créneau. Voilà. C'était ça que je voulais dire, répondre, non pas en tant qu'inter-LGBT, mais en tant que participante régulière aux décisions co-prises par l'inter-LGBT, à l'unanimité pour ce qui est la PMA, d'ailleurs.
Je par rapport à l'appel, de quel appel tu voulais parler ?
Ça y est, de l'appel. La pétition, excuse-moi, la pétition PMA. Oui, j'ai dit appel, c'est la pétition des élus.
Droit de réponse.
Ouais. Pour répondre par rapport à HES, ouais. En fait. Oh pardon.
Est-ce que c'est...
Ouais, par contre je ferai plus court parce que ouais, des fois je fais un peu trop long.
Il y en a encore un sera... qu'on n'a pas entendu.
Ouais ouais. Juste pour répondre, au sein de l'inter-LGBT, en fait, t'as quand même des pôles, enfin des peignières politiques, plusieurs associations participantes qui sont aussi bah, affiliées ou pas membres d'HES. Et donc elle a autant en fait de poids que aussi les autres. Et par exemple, la pétition PMA a été soutenue à l'unanimité. On a eu beaucoup d'aide, notamment du PG, du PC, d'Europe Écologie Les Verts, pour trouver les signataires notamment. Et moi, après, bon, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime les choses, on va dire les combats mous. Donc je mets un point d'honneur aussi à donner de la vigueur aux choses. Et, donc voilà. Et c'est aussi une question de volonté politique et des volontés des délégués thématiques, de tous, pas que les porte-paroles généralistes, mais des délégués, enfin des porte-paroles thématiques aussi, qui se sont engagés et qui donnent leur temps justement pour faire avancer les choses. Et dans les recommandations qu'on fait aux associations, parce que ce n'est pas nous qui prenons les décisions, de toute façon, elles sont votées par les associations membres, mais dans les recommandations qu'on fait, et lorsqu'on fait nos réunions, en tout cas, de délégation thématique, c'est toujours avec des responsables associatifs, puisqu'ils viennent dans nos réunions, qui veulent s'engager et passer vraiment à l'action. Donc, les personnes qui freinent sont... Si elles le freinent, elles ont vraiment peu de poids de toute façon, puisque la majorité des personnes, du moins qui s'impliquent, ont vraiment envie de faire bouger les choses et refusent la mollesse ambiante.
Sandy, est-ce que tu veux intervenir ?
Merci. Alors Sandy du Equality, bon déjà, je rappelle, bon déjà notre association est nationale. On est essentiellement militante. Là pour l'instant on est en phase de transition parce qu'on était à Bordeaux pendant 5 ans. Là, on vient d'atterrir à peine il y a 3 mois dans le 04 à Sisteron. Donc on est plutôt des gens qui aiment bien les défis. Donc déjà localement, c'est vrai qu'on est un peu dans un coin un peu isolé, un peu perdu. Donc on aimerait bien avoir un petit peu de soutien au niveau régional des autres assos LGBT du PACA. Déjà, on fait partie de la coordination LGBT PACA, mais on ne se connaît pas plus que ça. Donc ça serait bien qu'on apprenne à mieux nous connaître, qu'on puisse travailler ensemble dans la région. Défi régional parce que politique. Politique parce qu'on est quand même dans une région, il faut rappeler, limite Front National. Il faut quand même le rappeler. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Hein, parce que voilà, donc il y a quand même un combat politique à mener ensemble dans la région, entre toutes les associations LGBT. Déjà, voilà. Concrètement, pour l'instant, comme on est en phase de transition, on n'a pas encore mis des actions concrètes au niveau sur le terrain, mais on a des projets en tête, notamment à mettre en place, alors on ne veut pas faire une marche de fierté, mais plutôt élever vers une marche contre les discriminations. Vraiment toutes les discriminations. Ça s'est déjà fait il y a 2 ans à la Mastre, pour ceux qui savent, peut-être pour ceux qui ont connu à la Mastre avec LGBT Cré, tout ça, peut-être qui ont connu, mais nous on aimerait le refaire un petit peu. Voilà, je suis désolé, hein, je suis un peu fatigué, je suis pas bien, donc j'ai ma santé qui commence à...
Pas de problème.
Voilà. Donc nous, nos actions, pour l'instant, on agit pas mal sur Internet, notamment contre l'homophobie sur Internet, on se bat notamment contre la Manif pour tous, à fond dedans, contre la Manif pour tous, notamment pour ce qu'ils font, les propos homophobes qu'ils font sur Internet, sur les réseaux sociaux, on est à fond dedans. Voilà, on a une radio aussi, militante, qu'on a une émission tous les samedis, on évoque plein de sujets, tout ça, y compris LGBT. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis désolé, hein, je ne suis pas bien. Voilà, il y a une chose que j'aimerais bien revenir, c'est sur le côté les associations. C'est vrai qu'on nous a pas mal, pendant 5 ans, on nous a pas mal mis en arrière, mis à l'écart, parce qu'on dit beaucoup, on dit des choses crues, on nous accuse d'être des gens de polémique, alors qu'on ne fait pas de la polémique, c'est juste qu'on est honnête, on dit les choses clairement, haut et fort, que peut-être que ça dérange un peu, mais c'est pas dans le sens méchant ou dans le sens mauvais ou dans le sens négatif, c'est plus pour faire avancer, pour faire évoluer, et puis aussi qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans notre mouvement, et qu'il faut rappeler que même si on est dur sur nos paroles, ça ne veut pas dire qu'on est contre les associations, qu'on ne cherche pas le collectif. C'est juste qu'on aimerait Voilà, parce qu'il faut penser aux autres, il faut penser à tout le monde, peut-être que, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, donc je suis un peu le côté LGBT, je suis pour la défense des LGBT du bas, quoi, qui ne se reconnaissent pas dans notre mouvement. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, je ne suis pas bien. Voilà, et puis, voilà, si, peut-être qu'on est, on est tous ensemble dans le fond, mais dans la forme, il y a encore du travail au niveau de la... On n'a pas les mêmes fonctionnements, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes parcours, mais le but, c'est de mélanger tout ça, justement, de s'écouter, même si on est différent, même si on n'est pas du même niveau, tout ça qu'on s'est dit, mais moi j'aimerais bien qu'on se fasse confiance et qu'on travaille ensemble, et qu'on avance ensemble. Quoi. Voilà, au niveau, là je parle au niveau national. Ah, je suis désolé de ne pas être...
Très bien.
Peut-être qu'on va partager deux expériences que nous avons... qui vont aussi dans votre sens, mais qui complètent. La station mène des actions de formation, en particulier sur les études de genre, à destination de catégories socioprofessionnelles. Nous avons eu des demandes du Conseil de l'Europe, donc l'organisation qui prend un certain nombre de recommandations, qui est assez avancée, à destination du personnel pour le former également. Demande de la mairie de Strasbourg également, pour ces personnels en contact dans ces différents services sociaux, éducatifs, etc., avec de l'humain, et avec le rectorat également. Sur la question, on pense que c'est extrêmement important de poursuivre la formation sur la question, parce que les personnes ne sont pas forcément sensibilisées même, ou informées, et que ce travail, on doit le faire aussi, comme je le disais, avec nos bénévoles, donc c'est un engagement de notre part. Dans la charte du bénévole, on s'engage aussi à les former sur ces questions, parce qu'ils peuvent être interrogés, et puis pour eux-mêmes, pour le savoir. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, Strasbourg étant une de porte d'entrée sur le territoire français, à cause de la route de l'Est, nous avons affaire à un grand nombre de demandes, et nous avons instauré une coopération avec GAZAS, la CODA et la CIMAD, qui sont des organismes habilités, pour aider les demandeurs d'asile et les demandeuses d'asile dans la retranscription de leur récit, qu'ils transmettront donc à l'OFPRA, qui évaluera leur situation, pour les préparer aux entretiens également, et pour éventuellement, s'il y a appel auprès de la Cour du droit d'asile, pouvoir encore une fois... les préparer au mieux. Donc c'est un exemple de coopération avec des institutions avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler dans le milieu LGBTI, sachant qu'il n'y a pas de reconnaissance automatique de l'asile en fonction de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Donc il faut construire au mieux ces récits. Et une dernière chose, j'avais une question à Jérôme par rapport à Toulouse, puisqu'on souhaiterait aussi travailler dans les quartiers, même si ce mot est parfois difficile, et on ne sait pas toujours quel vocable utiliser pour ne pas être discriminant, sachant qu'on a une situation assez critique à Strasbourg, de ce point de vue-là, avec des cellules terroristes dormantes ou actives, puisqu'on a appréhendé des terroristes chez nous, et qu'il y a aussi une islamisation rampante, qu'une de nos élus était vivement prise à partie par sa communauté d'origine, sur ces questions, et qu'on est devenu un petit peu un laboratoire d'un parti politique en Turquie. Je voudrais savoir comment vous avez été appelé par votre mairie, de quelle manière vous agissez, si vous avez les moyens de pénétrer ces quartiers, et aussi la façon dont vous abordez les questions LGBTI, puisqu'on ne peut pas les aborder dans ces quartiers de la même manière qu'on le fait chez nous à la station en centre-ville. On ne peut pas directement parler de certaines choses. Il faut normalement le faire sous un autre angle. Et donc, quels sont vos interlocuteurs? Est-ce que la ville vous a aidé à trouver ces interlocuteurs? Et comment vous menez ces actions dans les quartiers? Ou c'est juste un projet? Ou comment est-ce que vous entamez ce projet?
Donc, Jérôme, en fait, ça a été une demande par la personne de l'EDL de
du centre en fait, laïcité de Toulouse qui en fait est le chargé de la diversité. Et après le comment on va procéder, c'est la grosse question qu'on se pose, mais on va par l'événementiel et par le culturel en fait. On a une exposition. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, une exposition qui a été faite en partenariat avec la mairie de Toulouse sur la discrimination à travers la bande dessinée, qui est un très bon outil, un très bon support justement pour pénétrer dans ces quartiers-là via les centres sociaux, via les centres culturels. En fait, on ne va pas y arriver d'un coup avec en brandissant les drapeaux. On va y aller progressivement. Puis on va déjà rencontrer les personnes qui sont moteurs de ces quartiers. Nous sommes via les clubs de prévention, via les centres sociaux. Mais c'est. On est en cours de réflexion, puisque c'est à partir de janvier qu'on va à la rencontre.
Si je peux juste une question, juste pour préciser la chose. Pardon, David encore.
Lorsque vous allez rencontrer les personnes, je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes reçu justement par ces personnes lorsque vous voulez parler de ces thématiques. Est-ce qu'il y a une perméabilité, est-ce qu'il y a une sensibilité à ces questions? Comment est-ce que vous comptez l'aborder?
Wow. Jérôme, après moi moi j'ai une formation à la base je suis comédien maintenant, mais j'ai une formation d'éducateur. Donc je lis mon côté éducateur et mon côté comédien, et j'ai bossé dans les quartiers dits difficiles, du temps du développement social des quartiers, et où j'ai pu traiter. En fait, je pense qu'il faut pas. C'est pas parce que ce sont des quartiers qu'on dit difficile qu'il faut ne pas rentrer dans le vif du sujet de suite et pas prendre des gants en fait. On rentre, voilà, on arrive, on est ce qu'on est et on arrive, on parle et voilà. Et puis après, c'est, je pense qu'il faut faire confiance aussi à l'intelligence des gens de qu'ils écoutent notre discours et si on respecte le leur aussi. Donc voilà.
Oui, Richard Gengley, pour continuer sur des exercices de visibilité des groupes qui nous concernent par rapport aux personnes âgées. Donc on a trois initiatives en cours. D'une part, une exposition itinérante qui serait avec des supports Pop Life. Vous voyez, donc c'est une photographie matiérée pour pas que les gens soient trop plus reconnaissables tout de suite, et un objet dédié à chacun. Donc ça ferait des panneaux sur plastique. Donc on a commencé au CGN et le CGN nous propose donc d'exposer à partir de janvier. Donc on est en train de faire des photos et ça sera une exposition qui pourra être se déplacer facile et tout ça. Par ailleurs, avec Michel Heim, que certains connaissent sans doute, qui est celui qui dirigeait les Caramels Fous, avec donc différentes lesbiennes et gays, ils travaillent sur l'écriture d'un spectacle qui s'appellerait sans doute Les Vieux du Stade ou les Vieilles du Stade, hein, pour là aussi permettre de faire circuler ce spectacle un peu partout. Et la troisième chose, c'est travailler avec les médias, avec la presse. Et là, par exemple, on a eu droit pour la nuit gay à un bandeau. Donc pendant 20 jours, où c'était Francis, qui est à côté d'ici, avec son compagnon, qui ont donc 60 ans tous les deux, et donc ils ont été le symbole de cette nuit. Pour une fois, un couple de 60 ans se présentant torse nu et enlacé. Là, on était en train de préparer un dossier avec Guépier, parce qu'évidemment, depuis, je sais pas, 12 ou 15 ans, que Têtu, aucune image, aucune, mais c'est les réminiscences d'autres discussions. Effectivement, dans Têtu, vous n'avez jamais vu un mec de 60 ans en couverture, hein, ça se trouve, entre 18.
Préparé avec Têtu,
entre,
c'est fini.
Ah oui, justement, on était en train de préparer ce dossier. Mais ça va être c'est de nouveau. Voilà. Non, non, mais donc il y a un visuel sur un. Il y a le journal est actuellement, continue sur le net et va être sans doute réimprimé dans quelques mois. Il y a donc un racheteur. Enfin, voilà. Donc c'était aussi pour essayer de pousser à la visibilité d'images de garçons ou de filles. Un peu plus âgé que la moyenne. Un calendrier, oui, c'est possible. Voilà. Et par ailleurs, sur un autre sujet, ça serait aussi de réveiller quelques décisions qui ont pu être prises à droite, à gauche, concernant la population LGBTI vieillissante, comme le rapport de Launay, qui était donc secrétaire d'État il y a quelques temps, et qui a écrit un très beau rapport avec des recommandations. Mais tout ça, évidemment, s'est passé dans les oubliettes, dans la mesure où elle a été remplacée. Et actuellement, c'est Laurence Rossignol qui s'occupe des sujets de famille, vieillissement, etc., personnes âgées. Voilà. Et donc, le lobby sert aussi à ça, à réveiller des textes dans chacun de nos lorsqu'on rencontre des interlocuteurs publics, de donner un petit mot sur... Mais c'est vrai qu'on regrette, par exemple, qu'à l'intérêt LGBT, lors de la dernière Assemblée Générale, c'est pas moi, j'y étais pas, mais c'est les échos, il n'y a pas eu un mot sur cette thématique du vieillissement. Il y a plein de thématiques évoquées, celle-là est toujours très silencieuse. Donc c'est tout, c'est réveiller un peu comme ça dans nos discussions, le fait que des vieux existent, ils ont besoin de nous. Un témoignage par rapport à Marseille, je suis descendu à la marche de fierté en juin avec un gros paquet de tracts et de newsletters en disant je vais inonder. Donc il y avait à peu près 2000, mais tu me corriges si c'est un autre chiffre, 2000 manifestants. Et je n'ai distribué que 50 tracts à des personnes de plus de 50 ans ou j'ai estimé de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement plus aucune visibilité de la communauté un peu âgée. Et Marseille, je pense que dans d'autres villes, c'est pareil. Donc là aussi, c'est-à-dire que notre présence soit dans plus de discussions possibles dans vos différentes associations. Et oui, juste un point par rapport à Aide, justement. Aide aussi avait fait un très joli travail et avait créé des états généraux autour de la des personnes séropositives et un certain nombre de recommandations concernaient justement les séropositifs vieillissants. Où en sont ces recommandations qui ont été, auxquelles j'ai participé d'ailleurs et qui n'ont jamais évolué, même au niveau de groupes de parole des vieux séropositifs?
Alors, de Aide, je ne peux pas te répondre sur cette question parce que moi je n'ai pas travaillé sur ces états généraux, mais je voudrais parler de nous ce qu'on appelle la disance. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. Depuis 2 ans, chez Aide, on a mis en place une journée de la disance le 6 octobre qui a beaucoup de mal à démarrer. Parce que c'est très compliqué pour une personne séropositive de parler publiquement de son statut sérologique. C'est venu d'un constat chez dans les groupes de parole, que ce soit homme ou femme séropositive. Une personne qui est homo et séropo, elle le vit comme un double coming out en fait. Et donc elle a déjà du mal à parler de son homosexualité, à sa famille, ses amis, son environnement professionnel. Donc parler de son statut sérologique, c'est très problématique. Et beaucoup le gardent pour eux, n'en parlent à personne, même pas à leurs amis, même pas à leurs amis gays. Donc ça, c'est quelque chose qui personnellement, qui me heurte beaucoup. Que dans la communauté même, on ne puisse pas en parler à son pote PD ou à sa copine Gwyn, par peur du stigma, de la honte, etc. En 2015, ça me semble... un petit peu problématique. Donc en fait, c'est parti d'un groupe de femmes migrantes africaines qui ont eu cette idée de lancer la journée de la disance. Alors il y a 2 ans, on avait fait une journée au Champ de Mars où elles lançaient des ballons, etc. Et tout. Cette année, on a essayé de mettre en place des témoignages, mais les gens ne voulaient pas mettre leurs photos ou pas leur nom. Donc c'est resté assez anonyme, en fait, hein, finalement. Ça n'a pas trop pris. Et je pense qu'au niveau communauté, il faudrait qu'il y ait un travail collectif à faire à ce niveau-là, voilà, pour que les gens puissent parler un peu plus librement leur statut sérologique, sans avoir peur du regard, du rejet, du stigmate, de toutes les représentations qui vont avec. Donc il y a un gros travail pédagogique à faire au niveau autour du VIH et des hépatites aussi, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'hépatite C, mais ça touche beaucoup le monde. Et il y a un gros tabou. La syphilis aussi, mais la syphilis, tu peux en guérir. L'hépatite C aussi, mais il y a des traitements aujourd'hui, mais qui sont très coûteux. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui par rapport à l'hépatite C, c'est que un traitement pour guérir une personne, ça coûte entre 30 000 et 40 000 euros pour une personne. Donc aujourd'hui, tout le monde ne peut pas en avoir. Il y a une espèce de loterie, comme au début des premiers traitements contre le VIH en 1995. Où ils voulaient instaurer une loterie et Aide et ACT UP s'étaient battus s'étaient battus pour que tout le monde puisse y avoir accès. Aujourd'hui on en est là au niveau hépatite C. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà, au niveau de la disance, je pense qu'il y a un travail collectif à faire. Il y a un gros travail à faire.
Ouais. Juste un petit mot par rapport à la santé lesbienne, où effectivement, là au niveau de la santé lesbienne, c'est vraiment le. On a juste, c'est l'invisibilité totale en fait. Il y a tout à faire parce qu'il n'y a pas grand chose qui avait été fait, même s'il y a eu des actions, notamment la brochure Tomber la culotte avec le kiosque, le CIS et d'autres orgas. À l'inter, on avait commencé à travailler sur un gros projet de santé FSF pour incorporer, pour être dans l'inclusivité totale. On avait fait une demande de subvention à la région Île-de-France qu'on n'a pas eue. L'idée c'était de partir en fait, ça avait été d'ailleurs soufflé en délégation santé par Aide, de partir de consultations communautaires en Île-de-France pour déboucher ensuite à un grand colloque avec atelier au premier jour et deuxième jour, finalement en retransmission de ce qu'on aurait pu dégager dans ces consultations. Et là on envisage, on n'a pas laissé tomber ce projet parce que même si on aurait pu le faire si on avait eu la subvention, mais maintenant on voudrait plutôt l'adapter à un projet interassociatif et on est en train de voir avec le centre LGBT par Île-de-France notamment, qui souhaite aussi bosser sur la santé FSF. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont eu une subvention et ils vont mettre en place en fait un questionnaire, donc un logiciel pour justement récolter, faire une consultation en fait de ces personnes FSF. Et je veux en faire sous les recommandations de Flora, la promotion aussi ici, puisque c'est évidemment à dimension plutôt francilien, mais ça peut être aussi à dimension nationale, parce qu'il y a la possibilité dans ce logiciel de mettre des modules, et l'idée, ça serait de le diffuser le plus largement possible, en fait, après, au sein même de vos associations, pour récolter le plus possible, en fait, de retours. Donc là, la subvention est à court d'octobre 2015, le projet, c'est octobre 2015 jusqu'à octobre 2016. Là, juste après les états généraux, le centre LGBT va mettre en place en fait une réunion avec plusieurs associations lesbiennes ou qui traitent d'enjeux lesbiens. Donc il y aura notamment la CLF, FIER, la commission lesbophobie des SOS, l'Inter également via sa délégation de visibilité lesbienne, et d'autres encore, les enfants d'arc-en-ciel, etc. Donc si d'autres associations, on serait sur Paris, mais si vous avez soit un pôle, par exemple, des associations lesbiennes ou qui ont un pôle lesbien ou bi, en tout cas qui traitent de ces enjeux, pourront s'y rajouter pour qu'on tous ensemble, on élabore en fait les différentes questions. Parce que c'est vraiment en cours de création. Et ensuite qu'on en profite vraiment de ce logiciel, de ce questionnaire. Et nous, après, on envisageait proposer au centre, une fois qu'on aura la récolte en octobre 2016, de pouvoir faire ensuite un événement là-dessus pour justement avoir matière à faire lobbying, parce que comme il n'y a rien, on a vraiment besoin d'avoir, même si on sait plus ou moins ce qu'on va entendre, on va entendre refus de soins, refus de pratiquer des examens gynécologiques, c'est surtout la violence gynécologique que rencontrent les lesbiennes par rapport à la lesbophobie des gynécologues, mais aussi l'absence de formation par rapport à ça. Donc on sait plus ou moins ce qu'on va entendre, mais on a besoin d'avoir des choses, des preuves avec des chiffres pour donner aussi aux politiques. C'est un exemple de travail interassociatif qu'on peut faire vraiment toutes et tous ensemble, puisqu'il s'agit ici, dans un premier temps en tout cas, de diffusion au sein des personnes FSF qui sont membres de vos associations par exemple. Mais le centre pourra revenir, après cette réunion du coup qu'on va faire avec le centre LGBT, on pourra ensuite revenir vers vous. D'ailleurs, ce serait bien, petite parenthèse, qu'on puisse faire une grosse mailing list suite à ces états généraux, parce qu'on parle de nos projets, il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres encore, où lorsqu'on a besoin justement de nos forces vives et de diffuser au sein de nos membres, et ça c'est typiquement où on a besoin. Donc voilà.
Oui, c'est pour aller dans le même sens.
Merci.
Pour aller complètement dans le même sens, j'ai été obligé sur Avignon d'intégrer dans l'équipe des professionnels de santé, plus que ce qui était prévu en fait à la base. Pas simplement avoir des partenariats, c'est-à-dire qu'on a trop de jeunes qui ont eu un parcours évidemment avant d'arriver chez nous, un parcours où ils ont été en autonomie mais en se débrouillant comme ils ont pu en fait. Et on a beaucoup de jeunes qui ont besoin, pendant qu'ils sont chez nous, d'avoir un parcours de santé, justement, et qui ont besoin d'informations et qui ont besoin de se soigner aussi. Voilà. Et pour les filles, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a zéro information qui n'a jamais été donnée, qui n'a jamais été reçue, plus exactement. Voilà, donc il y a des choses hein, qui se développent, par exemple, ici localement. C'est compliqué parce que ça induit forcément des protocoles, qui sont des protocoles, voilà, et qui réclament des professionnels de santé, qui réclament un secret aussi, évidemment, qui va avec. Et c'est ce qui se met en place, et il y a quelque chose de l'ordre de la mutation, vraiment, dans cette manière de concevoir l'accompagnement aussi, et de concevoir un accompagnement de santé. Voilà. Et la collaboration avec AIDS nous est précieuse, du coup. Justement sur ce qu'il y a à apprendre. Parce qu'ils sont à des années-lumière.
Mmh, oui, ouais.
Merci.
Animateur de Jeanne, j'ai abordé un autre sujet. Enfin, c'est juste quelques minutes de témoignage par rapport à ce que je fais avec la CGT. Parce que bon, j'en ai pas parlé tout à l'heure. En fait, donc la CGT a créé un collectif de lutte contre les discriminations homophobes et transphobes en 96. C'était au moment du Pax, parce que on s'était rendu compte que y avait des réactions homophobes par rapport à cette démarche-là. Et donc est venue la nécessité d'intégrer cette question de lutte contre les discriminations. Et donc on a créé un collectif. Donc c'est un collectif avec à vocation pédagogique, parce que pour ne pas que les militants continuent d'avoir des discours qui étaient insupportables. Récemment, donc en 2010, on a fait une enquête qui a concerné à peu près, on a eu 1000 réponses, et donc on a questionné les militants CGT, sur les questions LGBT. Et bon, il y a des questions, par exemple, qui nous ont interpellés. Parce que, par exemple, par rapport aux agressions, aux manifestations homophobes, la majeure partie des gens, sur une échelle, mettent les blagues, les injures comme question assez bas, et après ça monte jusqu'aux agressions physiques, et enfin ça monte comme ça. Alors qu'en fait, les personnes LGBT, le quotidien, c'est ça, c'est les blagues, les injures, le harcèlement quotidien qui les pousse au suicide quelquefois. Donc on a fait ressortir que les difficultés, elles étaient là. C'est-à-dire c'est dans le quotidien, c'est à la machine à café, avec les gens qui parlent de leur week-end avec leurs enfants, et la personne LGBT qui dit ben non, voilà, moi je sais pas, parce que souvent elles n'ont pas fait leur coming out, donc pour elles sont toujours exclues de certaines choses. Donc nous, on fait un travail là-dessus pour qu'elles osent être visibles, enfin qu'elles gèrent cet aspect-là. Donc on a fait un DVD aussi, un guide, et qu'est-ce qu'il y a ? Là oui, on a fait aussi un travail avec toutes les fédérations, parce que on est constitué de multiples fédérations, les fédérations de la métallurgie, de l'éducation, on fonctionne comme ça. Et donc dans chaque lieu, on a fait des projections pour informer de ce qu'était la question LGBT. Donc ça progresse dans le milieu du travail et tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu nécessaire pour pas qu'il y ait des gens qui raisonnent encore de façon très, très basique. Voilà. Ah oui, puis en ce moment, ce qu'on est en fait en train de faire, on est en train de concevoir une formation. C'est-à-dire pendant une semaine, les militants CGT pourront recevoir une formation sur ces questions-là. Et après, donc pouvoir rediffuser eux ce qu'ils ont ressenti dans leur quotidien. Parce que c'est vrai qu'on pense que c'est pas une priorité, mais pour la CGT, il n'y a pas de hiérarchie entre les revendications. Les discriminations, que ce soit la plus grosse, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, et jusque, on pourrait dire, l'aspect LGBT, ou je ne sais pas, je sais même pas si c'est la plus petite revendication, mais on ne fait pas de hiérarchie. Toutes, elles sont très importantes, parce que pour une personne qui la vit, elle est cruelle. Donc on défend toutes les revendications. Voilà.
Je suis vraiment désolé d'être pas bon. Expérience, alors deux qui viennent par rapport à ce que disait Jeanne. La première, c'est que lundi, il y a une restitution dans le cadre d'une étude commanditée par le BIT sur la question, Bureau international du travail, sur la question des discriminations LGBT au travail. Alors, nous, on y a participé au titre de Bicoz, notamment la vice-présidente de Bicoz, qui se trouvait par ailleurs militante CFDT. Je dis ça parce que je suis CGT. Deuxième élément pour remonter, et Bicoz et le Centre LGBT Paris-Île-de-France et d'autres peut-être parmi vos associations, on est partie prenante du lancement d'une questionnaire enquête par l'Institut National des Études Démographiques, l'INED, à propos de LGBT. La troisième chose, c'est que justement, il y a un travail qui a été engagé par l'Inter avec l'INPS, l'Institut National de Prévention du Suicide, et le fait qu'il y a tout de même deux moments dans l'année qui sont la journée nationale de prévention du suicide et la journée internationale contre le suicide. Alors l'une est le 10 septembre, l'autre le 5 février, je ne sais jamais laquelle est la bonne. Enfin bref. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que pour la première fois, moi, en jupe, avec mes prothèses, trucs comme ça, et mes cheveux au vent, je suis allé à la journée mondiale de la déportation, parce que c'est pas trop mon truc, les drapeaux, les machins, etc. Sauf que, à la déportation, par suite à un combat acharné d'années, années, hein, y a la présence des associations mémorielles LGBT. Et c'est super important, même si j'ai eu l'occasion de voir la tête à Manuel Valls, qui n'a pas dit que des mauvaises choses au demeurant, mais enfin bon, c'est qu'il y a aussi un projet au long cours qui est entamé par les associations mémorielles, oubliées de noir, mémorial de la déportation homosexuelle, mais sur la création d'un monument aux victimes LGBT, alors qui puisse être fait de manière un peu intelligente, c'est-à-dire certes physiquement présent sur Paris, mais avec peut-être des répliques virtuelles ou autres dans les villes qui voudraient s'y associer, les villes des régions qui voudraient s'y associer.
Il est 13h15, il y aura 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait ?
Aussi de résumer un peu pour...
Je vais devoir vous abandonner parce que les repas sont
terminés. D'accord, ok,
ben, à plus tard.
C'est en bas.
Et après, on peut prendre 2-3 minutes pour présenter ce qui va se passer. Moi, je suis nulle pour synthétiser.
On sent que c'est un truc, là.
En fait, j'ai recensé un grand nombre de bonnes pratiques parce que c'était un peu ce qui était demandé dans l'exercice. Donc, je ne vais pas les répéter parce que je pense qu'on les a tout entendus. Ouais. C'est surtout pour Christine qui va peut-être laisser les perles. Mais en tout cas, elles ont toutes un même objectif, c'est d'être plus inclusif afin que les enjeux soient compris des uns et des autres et portés par tous et toutes. Donc dans tous les domaines, que ce soit les questions de vieillissement, la santé, les questions pertinentes aux personnes lesbiennes, bi. Donc j'ai noté ça, bon, il semble qu'il y ait, qu'on fasse tous ce travail pour l'instant, mais qui mérite d'être porté plus avant par non seulement par les bénévoles, mais aussi peut-être des salariés, voir de quelle manière on peut renforcer les financements pour travailler sur des projets particuliers, qui ne soient pas donc du soutien au fonctionnement des associations ou des centres, mais sur effectivement ces campagnes, ces projets. Bon, ça c'est rapide, sur le vif. Hein.
Développer encore la communication et peut-être une certaine pédagogie
vis-à-vis de certains. Oui. Voilà.
Mais là, excuse-moi, là on n'est pas dans les objectifs, on est dans l'état des lieux. Hein.
Oui.
Donc il ne faut pas qu'on dérape vers la seconde partie.
Oui, oui. Quand même, on est dans les constats.
Constat, état des lieux.
Un élément important, c'est le côté intrinsèque du politique et des partis que tu as évoqué principalement.
Voilà.
Aussi, par rapport au... Comment se partir ou comment agréger, comment enfin toi il y a toute une.
Sur l'indépendance, la représentation et
c'est autant incontournable.
Selon on est à Paris ou à Bayonne, ce n'est pas du tout le même rapport aux politiques locales. C'est encore autre chose.
Et peut-être il y a un aspect dont on n'a pas parlé, je ne sais pas si on pourra l'aborder cet après-midi, c'est la question des jeunes trans et des intersexes. Je ne sais pas si. On aura un peu de temps.
Cet après-midi, c'est quoi le programme alors ?
Alors, pour fonder une communauté, effectivement, ce qu'on appelle l'axiologie, les valeurs, il faut peut-être que là, on n'a rien défini, je trouve, clairement par rapport à ça.
Ouais. On en a parlé, mais on n'a pas dit quelles étaient ces valeurs.
Pour les énoncer.
Mais parce que ce matin, on était dans le constat. C'est peut-être après qu'il va falloir dire sur quoi on peut se mettre d'accord.
Alors, le titre pour cet après-midi, c'est « Besoins, enjeux et valeurs ». Qu'est-ce que ce diagnostic dit des besoins réels ? Quelle vision prospective sur des enjeux futurs ? Sur ce thème, quelle valeur dit notre approche ? Et pour orienter un peu, il y a des sous-titres. Alors, c'est pour une dimension sociale et législative, donc notamment par exemple la filiation, pour une lutte contre les discriminations, racisme, sexisme et autres, je pense qu'on aura plein d'autres, sur l'état civil, le respect du corps, la dignité humaine, aussi le milieu du travail, c'est très large. Pour la santé, donc revenir sur ce qu'on disait par rapport à l'absence de prévention existante et à l'invisibilisation des personnes de tout village, par exemple. Pour la solidarité, donc favoriser l'intergénérationnel. Peut-être voir l'image des associations, comment les changer, l'échelle internationale, on ne pourra pas tout aborder. Mais, de nouveau, parler de discrimination multiple et se voir comment on va lutter contre toutes les discriminations en favorisant la convergence des luttes, la transversalité des luttes. Voilà. Après, moi ce que j'ai noté, sur, mais bon ça c'est à titre personnel sur lequel revenir, c'est comment on mobilise celles et ceux qui ne se sont pas concernés par des revendications politiques, comment on fait pour dire mais si c'est politique, en fait, n'aie pas peur des mobilismes politiques. Et c'est comment aussi...
Inclure aussi.
Et comment on peut être entendu en tant que petite association. Mais du coup, ça sera une discussion, je pense, autour de l'intérêt LGBT. Comment l'intérêt LGBT ne soit plus le seul intérêt. Mmh.
Okay. On a pas matière à réfléchir pendant la pause déj. Hein.
Il se bat son arme, c'est bon.
C'est
pas M16. Je crois que c'est les M16.
Je pense que là, il y a un plan Vigipirate hyper
tendu. C'est l'état d'urgence.
Tous les spectacles culturels sont...
Oui.
Sécurité.
Juste une chose, excusez-moi.
Dans cette région, Clément et Aaron, c'est il y a 15 jours.
Oui, tu voulais dire ça n'a rien à voir avec le sujet. Je suis désolé, je pourrais pas être présent cet après-midi. Il y a ma santé qui prend le dessus là.
D'accord.
Donc, je pense que vous l'avez remarqué, j'étais un peu à côté de la plaque pour parler. Donc, je m'excuse par rapport à ça.
Pas de souci.
Donc, pour le groupe mémoire, si quelqu'un peut remplacer aussi, le dictaphone comme il est à moi, donc je le récupère. J'espère que ça posera pas de problème pour cet après-midi. Est-ce qu'à la limite je peux le prêter si vous voulez? Si vous en avez besoin pour cet après-midi,
du puis coup, on tu reviens demain ou...
Je reviens demain, ouais, j'espère que je serai en meilleure forme, mais... Voilà. Puis peut-être si quelqu'un peut me remplacer pour ça. Ouais, c'est possible. Mais, de toute façon, je vais rester dans le coin, je vais me reposer dans le coin. Oui, je vous le prête, il n'y a pas de souci. J'ai mis une pile neuve, donc ne vous inquiétez pas.
Il continue
en ce moment. Non mais là je vais l'arrêter, il faut l'arrêter. Tu peux l'arrêter, il n'y a pas de souci.